est enregistré.
Du coup, faites gaffe à ce que vous dites.
Pour la postérité, donc vous savez que. Voilà.
J'en profite pour distribuer ces petits. Sont les programmes de la saison culturelle de Saint-Mizier. Je vais les faire passer. Oui, vous avez déjà. Voilà. Les jeudis des boiseries sont tout de suite après les photos. Je signale juste une petite erreur. Le 14 décembre, c'est pas Christian Fernandez qui serait dans ce cas-là le frère de Cédric Fernandez, mais Christian Verdet qui vient le 14 décembre. Voilà, il y a eu un problème. Voilà. Et Christian Verdet qui est photographe reporter et qui sera notre dernier invité de l'année. Et je ne sais pas si, enfin, on verra si on reproduit ça sur une deuxième saison. Bonjour, bienvenue, bonsoir. Merci d'être là à ces Jeudis des Boiseries. Un petit rappel sur ce que sont les Jeudis des Boiseries, le principe. Donc chaque deuxième jeudi du mois à 18h30 dans cette pièce assez étrange. Oui, entrez. Donc, t'inquiète pas, je crois que tu n'es pas le dernier. Oui, c'est vrai, tu peux laisser. Oui, c'est ça. Ouais. On est pas mal là, on est chaud, on est au chaud. Donc chaque deuxième jeudi du mois, une rencontre avec une personnalité, en général plutôt de l'art, oui, une personnalité, j'ai bien dit personnalité, de l'art, ou voire plus, puisque en parlant notamment de Christian Verdet, qui est photoreporter, on élargit un petit peu le cadre des disciplines. L'idée, c'est de rencontrer des personnes qui, dans leur métier, dans leur discipline, ont rarement l'occasion de s'exprimer longuement sur leur travail et sur l'éventail complet de leur travail. Souvent, quand on rencontre, quand on accueille des écrivains en médiathèque, en librairie, par exemple, je parle d'écrivains, écrivaines, c'est souvent à l'occasion d'une actualité, d'un livre qui vient de sortir, ou autrice de bande dessinée, c'est à l'occasion d'une sortie récente, et on s'intéresse au dernier opus. L'idée du Jeudi des Boiseries, c'est d'aller plus largement sur l'ensemble de l'œuvre, pour essayer d'approfondir, disons-le avec un petit peu de prétention, les arcanes de la création, voilà. D'accord. Et donc de faire que le public rencontre aussi ces personnalités et puisse échanger sur ce que c'est que créer ici en l'occurrence une bande dessinée, comment la bande dessinée peut témoigner du réel, n'est pas seulement de la fiction, un support de fiction, ou pour d'autres, ce que c'est qu'une chorégraphie, comment est-ce que on construit une chorégraphie, ou avec une plasticienne comme Catherine Chanteloup, comment on élabore une œuvre plastique en volume, etc., sur quel matériau, quelles obsessions, pourquoi, quel chemin est suivi pour obtenir un objet au bout du compte. Si vous voulez prendre note tout de suite que le prochain rendez-vous, donc dans un mois, ce sera le 9 mars, donc un jeudi bien sûr, et ce sera avec l'écrivain et poète Christian Degoutte. Voilà. Mais en attendant ce soir, nous recevons Léa Twitou. Léa Twitou qui a produit en quelques années, et tout n'est pas là, mais a déjà, malgré sa jeunesse, bien qu'elle soit jeune, une œuvre. Voilà. Donc on va parler de ça. Et je vais vous présenter rapidement. Vous savez que les grands destins sont souvent leur naissance sont liées à des grands événements. Alexandre le Grand est né au moment de l'incendie du temple de Diane à Éphèse, ce qui a évidemment ce qui déjà prédisait un grand, c'était une des sept merveilles du monde, un grand destin. L'Iatuitu est né l'année de la catastrophe de Tchernobyl.
C'est vrai.
De l'explosion de la navette Challenger. De la mort de Coluche,
de Daniel Balavoine,
accessoirement Thierry Mouillon. Mais elle est née aussi. Pardon.
Mais la réincarnation de Balavoine.
Elle est née aussi l'année du dernier passage de la comète de Halley. Alors quand on est sous quand même les auspices d'une comète. Ouais, on se dit quand même qu'il va vraiment se passer quelque chose. Et donc, vous avez commencé très jeune, de la bande dessinée. C'est votre médium favori. Vous n'avez pas fait que ça, on va voir, elle a fait beaucoup d'autres choses d'ailleurs, mais notamment de la bande dessinée.
Je pense que, en fait, j'étais assez persuadée que oui, depuis toute petite, quand j'étais...
J'adore. Non, mais on fait comme si vous n'étiez pas là. Ah ben, il y a les choses devant.
Ah, c'est bien, je cherchais des réponses.
Oui, donc vous avez été assez tôt persuadé que...
Quand j'étais en CE2, c'était très clair que je voulais être dessinatrice de BD. Je me suis accrochée à ça pendant vraiment... Après, ça n'a plus trop bougé. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment plus que le reste, c'était raconter des trucs. Et il s'est trouvé que c'était la bande dessinée. Mais voilà, en faisant des études de dessin, paradoxalement, je me suis rendu compte... que moi par contre ça m'éclatait pas du tout de passer des heures et des heures et des heures à dessiner. J'ai des copains d'études, on passait 8 heures à faire à la gouache une cuillère et pour qui c'était vraiment un truc intéressant alors que pour moi c'était vraiment prodigieusement merdant. Et du coup c'est en passant par les études que je me suis rendu compte qu'en fait moi ce que j'aimais bien c'était raconter des choses et que le dessin ça me servait pour le faire mais que j'étais pas une dessinatrice de d'âme en quelque sorte. Voilà.
D'illustration par exemple, ou artiste peintre.
Ça m'arrive de travailler en illustration, ça m'arrive de faire des affiches, des choses comme ça, mais pour moi le dessin c'est vraiment plus un moyen de raconter.
Le langage de bande dessinée, vous dites, ça vous est venu, enfin très tôt vous étiez sûr de ça, mais il a bien fallu qu'un contact avec la bande dessinée d'abord. Il y a des précurseurs, des gens qui vous ont influencé, vous avez lu de la BD, il y a bien des BD qui vous ont permis de dire voilà c'est ça que je veux faire.
Oui, j'ai pas un souvenir marquant d'un moment où je me dis ok c'est ça. J'ai beaucoup baigné je pense dans la bande dessinée, dans la lecture. J'ai deux parents qui sont orthophonistes qui aiment bien lire aussi, donc je pense qu'on a beaucoup baigné là-dedans. J'ai un papa qui aime beaucoup faire du dessin, donc on a beaucoup fait des petits ateliers de dessin un peu en activité, puis c'était
naturel.
Il n'y a pas eu de révélation un jour de bon sang, mais c'est bien sûr la bande dessinée, ça a toujours
votre première bande dessinée elle est parue très tôt, vous aviez 15-16 ans,
mais oui.
Dans une association d'auteurs de bande dessinée rouennaise.
C'était eux les précurseurs.
Et donc Léa, à l'époque vous aviez un pseudo, c'était Lilou, d'accord, et avait produit cette bande dessinée qui augure de pas mal de thèmes que vous allez explorer ensuite.
Ça fait 10 ans que je l'ai pas lu.
Et justement, qu'est-ce que vous en pensez maintenant?
Ça me fait bizarre. D'un côté, ça m'attendrit vachement, en fait. Ça me fait bizarre, mais j'étais tellement contente de pouvoir faire ça. Maintenant, je me dis, oh là là, bon sang, j'étais un bébé, puis c'est difficile de revoir un peu le travail qu'on a fait il y a...
Surtout si jeune, en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui n'ont pas un témoignage de leur toute première production... publié
c'est ça,
assez rare. Donc
c'est
puis, là, vous êtes obligé de compter avec ça. C'est là, ça existe.
Oui, oui, voilà. Puis ça m'a. Enfin, oui, c'était fou pour moi à 15 ans d'avoir une vraie BD publiée. Je pense que ça. Je pense que ça a acté aussi des choses pour mes parents, en fait, oui. Pour qui la bande dessinée n'était pas forcément un choix professionnel extrêmement, extrêmement réfléchi. Je ne sais pas à quel point ils considèrent maintenant que c'est un choix professionnel extrêmement réfléchi, mais ils sont habitués.
Il a fallu, oui, qui, voilà.
Mais je pense que voilà, il y a eu une espèce de... Ouais, de validation, de dis donc, voilà, c'est un vrai livre avec des pages et tout ça.
Elle racontait quoi cette...
Est-ce qu'on peut la voir?
Bien sûr. Avec l'autorisation de Léa, je la fais passer.
Non, oui. Moi, j'ai jamais vu aucune
de tes BD. Regardez en tête que c'était il y a longtemps. C'était une bande dessinée sur le deuil. Mais qui était pas, c'était pas du tout une histoire vraie, c'était vraiment une fiction. Et du coup, maintenant d'y repenser, ça m'interroge un peu. Je me dis pourquoi j'ai raconté ça, parce que je pense qu'il y aurait des trucs à fouiller psychologiquement peut-être. Mais ouais, c'était l'histoire d'une petite fille qui avait perdu sa grande sœur. Et voilà, qui se perdait dans la rue et qui était récupérée par une jeune femme avec qui elle discutait. Voilà. Donc je sais pas à quel point il y avait l'espèce de la question de la rencontre de personnes qui se croisent, voilà. Moi j'ai toujours rêvé d'avoir une grande sœur, donc peut-être qu'il y avait une espèce de truc je sais pas.
Justement à propos du deuil, vous y revenez dans ça, c'est un album collectif de la même association d'auteurs de BD rouennais, et donc vous voyez le titre, c'est À nos pères. Donc c'était chaque auteur, autrice apportait son regard sur les pères. PE, etc. Vous, en fait, c'est père et grand-père, en fait, là, dans cette histoire-là. Mais il est question du deuil aussi.
Oui, mais en fait ça c'est moins quelque chose qui a été choisi comme thématique, puisque là il y avait eu l'idée d'un collectif avec cette thématique-là, voilà, qui avait été.
Il faut dire dans l'association, il y avait eu beaucoup de deuil en effet, donc le thème voilà. s'imposait un peu.
Là, le thème avait pas été choisi.
Oui, c'était un peu
personnellement, mais...
dans l'ambiance du moment. Vous êtes entré à aller, enfin vous avez souhaité vous professionnaliser, j'imagine, je ne sais pas, pour entrer dans une école lyonnaise qui s'appelle Émile Cole, je ne sais pas si certains connaissent. Ce choix d'école, ça correspondait quoi à ce moment de votre parcours?
Moi je voulais, depuis le CE2, moi je voulais faire de la bande dessinée, c'était absolument acté. En CE2, ma famille trouvait ça assez cool comme idée, et quand j'ai eu 18 ans, beaucoup moins. Donc moi je me suis sentie un peu fumée, parce que moi quand j'avais 8 ans, ils m'ont dit mais c'est super, on achètera toutes tes BD, et j'ai gardé la même idée tout le long, et c'est eux qui ont changé d'avis. Mais du coup, voilà, il y avait eu il fallait que j'aie un bac général, donc j'ai eu mon bac ici, au lycée Jean-Puy. Et ensuite, je voulais entrer dans une école de dessin. Il y avait peu d'écoles en fait, qui formaient à la bande dessinée. L'école Émile Cole était une des seules. Il y avait l'école Pivot aussi à Nantes et il y avait l'école à Angoulême. Et
on m'avait dit. Oh là là, la plus proche, c'était celle-là.
Oui, puis on m'avait dit aussi l'école Émile Cole, c'est la meilleure. Je vais faire de la BD, il faut aller à Cole, etc. Ça avait une espèce d'aura.
Il y a pas mal d'auteurs rouennais qui sont issus d'Émile Cole.
Mais en fait, paradoxalement, ça a été des années très très dures. Je vais pas cracher dans la soupe, je suis très contente d'avoir fait cette école, mais je suis très contente que ce soit fini aussi.
C'était peut-être pas l'enseignement que vous attendiez en fait.
C'était une école qui était très très académique. Et sur les 2-3 premières années, c'était vraiment ça. On passait 8 heures à faire des drapés au fusain, des cuillères à la gouache, etc. On avait, les premières années, on avait peu de, de bande dessinée, de création, on va dire. Et pareil, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de passer par là, parce que je pense que je ne serais jamais passée autrement, d'apprendre la perspective et l'anatomie et tout ça.
Ah oui, la perspective, je me souviens.
Oui, voilà. On a des exemples de perspectives douteuses. Moi, j'y suis rentrée très très jeune, puisque j'avais encore 17 ans quand j'y suis rentrée. Et c'est vrai que c'était une école qui prenait sur dossier, et que j'y suis allée un petit peu au culot parce que j'avais pas le niveau nécessaire pour rentrer, et j'y suis allée vraiment un peu voilà, un peu en poussant, en disant non, prenez-moi, je sortirai pas du bureau, prenez-moi. Et du coup voilà, je me suis retrouvée avec des gens qui avaient plus d'expérience, plus de talent, plus d'habitude de travail aussi, qui étaient peut-être plus dans le dessin,
qui correspondaient plus à ce que
l'école cherche, qui correspondaient peut-être plus à l'école aussi. Et c'est vrai que voilà, je suis passée d'une scolarité qui jusque-là était assez confortable pour moi, où ça roulait assez bien, à vraiment 6 de moyenne tout le temps, alors que je travaillais beaucoup, beaucoup, donc c'était très incongru pour moi. Et ouais, ça a été long.
Ça a été long et difficile. Petite revanche quand même, il me semble que, parce que ça fait partie de votre travail à Emile Cole, enfin un dossier
de... projet de diplôme raté.
Projet de diplôme raté. mais du coup, Léa était une des seules de sa promotion à être publiée immédiatement.
Oui, c'était très curieux parce que c'est mon projet de diplôme avec revanche, lequel je n'ai pas eu mon diplôme.
Les profs n'ont pas voulu, mais il y a une maison d'édition qui s'appelle La Cabane du Chien.
Une petite maison d'édition dans le
Elle existe encore cette maison?
Non, elle a été rachetée par les éditions du Jasmin.
D'accord.
Voilà, donc le fonds existe encore, mais c'est plus eux qui le distribuent.
Et donc ça s'appelle De toi à moi, et c'est un joli exercice sur le langage autour du champ lexical du bâti.
Voilà.
Les tuiles, les briques, les toits, bien sûr. Et c'est une histoire d'amour en même temps.
Oui, alors c'est vraiment... là, pareil, c'est pas du tout un truc que j'ai choisi. En fait, quand j'étais à Nicole en dernière année, on devait trouver un projet de diplôme. Et moi, j'ai proposé des choses qui m'étaient refusées régulièrement. J'ai dit, je voudrais faire un carré de... Je m'ai dit, non, ça vous va pas. Je voudrais faire de la BD. On m'a dit, non, c'est pas pour vous. Donc, je me suis retrouvée, bien en décembre ou janvier, à me dire, oh là là, mais j'ai pas de sujet de diplôme, j'ai pas de projet, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et on avait en fait pendant le... De temps en temps, on avait ce qu'on appelait une colle, et c'était une journée pour faire un dessin sur une thématique. C'était ramassé, noté, puis ça faisait une note de trimestre. C'était un truc un peu impressionnant de dessin sur un temps limité. Et on a eu une colle à ce moment-là. Et on avait une thématique, c'était une visite immobilière qui se passe mal. Et du coup, j'ai fait une espèce de dessin comme ça, avec plein de perspectives toutes bizarres, avec plein de bâtiments qui se croisaient, s'entrecroisaient. Et puis au milieu, il y avait l'agent immobilier qui disait « Ah, vous allez rire, ce n'est pas la bonne adresse. » Et du coup, mon directeur est passé derrière nous à ce moment-là. Et il a fait « Ah, tout et tout, ça c'est bien, une bonne illustration, faites un projet de diplôme là-dessus. » Et du coup c'était le directeur, donc j'ai dit oui bien sûr. Mais du coup c'est vrai que c'était...
Ah oui, ça s'est passé.
Non, mais voilà, c'était pas du tout un choix éclairé de tiens. Donc je me suis dit ok, il faut un projet de diplôme avec des maisons. Et du coup c'est devenu ça. Je me suis dit bon, moi je vais aller chercher dans les mots, parce qu'il y avait toujours un peu cette idée de raconter des histoires. Et du coup, je me dis, je vais trouver toutes les expressions en lien avec la maison, le toit, la construction. Et j'ai essayé d'agencer ça pour faire un petit texte et de jouer avec un peu graphiquement. Mais c'est vrai que, oui, c'est devenu mon projet de diplôme vraiment un peu par hasard.
D'accord. Ouais.
Voilà. Et donc,
c'est un côté charmant c'est surprenant, mais très... très agréable.
Et ben, ils l'ont pas voulu en diplôme.
Ils l'ont pas voulu en diplôme, mais justement, c'est quand même sympa d'avoir cet aboutissement quand même. Oui. Comment s'est passée déjà la rencontre avec l'éditeur? C'est une coïncidence?
Un hasard. Ça a été beaucoup, beaucoup de hasard, cette vie.
Mais la vie, c'est comme ça. Il faut d'abord faire des choses.
Oui, voilà.
Et après, le hasard permet de faire.
Donc moi, c'était mon diplôme raté, donc j'étais extrêmement fâchée. Je l'ai mis dans un tiroir. J'ai dit, ah, c'est nul, j'en parlerai plus jamais. Et en fait, après. L'année suivante, j'ai fait un petit boulot où j'étais assistante pédagogique, ce qui a donné du coup après la faute à ma mère. Donc j'ai fait un petit boulot pour la ville de Pierre-Bénite, où on faisait qu'il avait mis en place quelque chose avec, avec l'hôtel de ville, de la, ça s'appelait l'hôtel de ville de la jeunesse, et 4 fois par semaine, des collégiens pouvaient venir, plus ou moins motivés ou motivés par leur famille, faire leurs devoirs et avoir un temps un petit peu avec, avec nous, voilà, on aidait à faire les devoirs, on temporisait des trucs, voilà. Et un de mes collègues là-bas avait son père qui bossait pour une maison de diffusion, voilà, pour le diffuseur Pollen, qui travaillait avec la cabane sur le chien. Et voilà, et on est devenus potes. À un moment, j'ai montré un peu ce que je faisais. Il m'a dit: ah, mais ça, c'est super bien, fais pas que je le montre à mon père. Donc, il l'a emporté à son père, qui m'a appelé en me disant: mais ça, je peux le proposer à la maison d'édition. C'était vraiment une somme de hasard. Puis c'était une belle revanche aussi de le voir publier.
Voilà, et puis voilà. Là aussi, l'album existe. Et donc là, alors les ateliers dont vous parlez, ça. Vous avez restitué, témoigné de ce qui s'est passé dans cet atelier par ce petit album.
Oui, j'aime bien celui-là. Mais paradoxalement, en fait, une fois que j'ai eu raté mon diplôme, normalement, on rate le diplôme et puis c'était fini, merci, au revoir. Et en fait, j'ai un peu harcelé l'école pour le repasser, parce que j'avais vraiment beaucoup bossé, donc j'ai été voir mon directeur, je dis: vous savez que je mérite de repasser, vous savez que je méritais ce diplôme. Donc ils m'ont dit: oui, ben, si vous repayez les frais de scolarité pour une nouvelle année, vous pouvez venir un peu en candidate libre, etc. Donc je travaillais chez moi en candidate libre, je ne suivais pas les cours puisque je les avais déjà fait. Et en parallèle, voilà, je travaillais à la mairie de Pierre-Bénite pour avoir un peu de sous. Et bah pareil, au début j'étais partie sur une espèce de projet un peu compliqué, un peu de science-fiction particulier, puis on m'a dit: non, mais c'est pas un bon projet de diplôme. Donc j'ai dit: ça, je l'ai déjà eu l'année passée, merci. Et en fait, je faisais des petits gribouillis de ce qui se passait. Il y avait plein de situations marrantes, on travaillait avec des collégiens qui avaient leurs humeurs, on avait des moments drôles et des moments fatigants aussi. Et voilà, c'est vrai que j'avais des collègues très chouettes avec qui on avait besoin de redescendre des fois. Et voilà, ça passait beaucoup par le dessin pour caricaturer les élèves, on racontait des petites scènes. Et pareil, un jour j'avais ça dans une pochette sur un projet que je montrais, et on m'a dit: ah, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit: oh, non, rien, c'est des bêtises. Ils m'ont dit: non, ça c'est un projet de diplôme, ce serait plus intéressant. Ça a été un des premiers pas justement vers le fait de se rendre compte qu'en fait ce que j'aimais, c'est raconter, et que j'avais du mal parfois avec le dessin très dessiné. C'est que j'ai dit: mais non, ça peut pas être un projet de diplôme, ça je le fais super facilement. Et on m'a dit: et alors, tant mieux,
en fait,
c'est plutôt une bonne chose que ce soit. Et dans ma tête, le dessin, ça devait être laborieux, difficile, et ça je le faisais tellement naturellement que... Et du coup, voilà, c'est devenu un projet de diplôme, donc il y a des petites histoires, on va dire, en une ou deux planches, et puis de temps en temps, il y a des portraits un peu plus poussés avec des voix, des récits d'élèves qu'on a pu avoir. Voilà, ça s'appelle La Faute à Molière. C'est ce que j'ai présenté, du coup, la deuxième fois que j'ai passé mon diplôme, et cette fois, je l'ai eu, donc j'étais très contente. Autant il y a des projets que j'ai arrêtés, que j'ai démarrés, où je me suis dit: bon, bah voilà, que je re-regarde un peu avec affection, en disant: bon, bah voilà, c'était une tentative, ça n'a pas marché. Autant celui-là, à chaque fois que je le revois, j'ai un petit pansement de: mais quand même, c'est pas fini, ce serait bien de faire un truc avec celui-là. Je pense qu'il y a de la matière pour faire quelque chose qui puisse être publié, puisque là c'est une petite maquette, mais ça n'a jamais été publié.
D'accord, allez.
Et ouais, il me manque celui-là. Et vous
l'étofferiez avec d'autres
anecdotes? Ah oui, puis là c'est dessiné en 2009. Donc,
d'accord, et oui, bien sûr.
Voilà, là quand je le revois, je me dis: ah, mon Dieu, c'est le bonhomme. Mais oui, c'est que j'ai continué... ou par le biais d'ateliers artistiques, ou plus largement par le biais d'ateliers divers et variés, à travailler avec des jeunes, avec des étudiants, avec des publics particuliers, on va dire. Et du coup, j'ai plein de petites anecdotes comme ça, et j'aimerais bien...
Oui, qui pourraient faire l'objet d'une publication.
Oui, puis ouais, autour du rapport au français, autour du rapport à la langue, on était contents de ce titre, La Faute à Molière, et c'est vrai que...
Ouais, très bien. Pour revenir à des... Justement, vous parliez de projets plus compliqués, qui frisent de fantastique, etc. Moi, je me souviens d'un film d'animation.
Oui, il y en a eu plusieurs.
Il y en a eu plusieurs, mais je me souviens d'un particulièrement, parce qu'il avait été présenté à l'Espace Renoir,
oui,
dans un public quand même assez nombreux. Et c'était...
Battement d'ailes.
Battement d'ailes, voilà. Il y en a eu d'autres, oui.
Il y en a eu d'autres pendant mes études.
Et c'était quand, justement, battement d'ailes? C'était à quel moment?
Battement d'ailes, c'était juste après mes études. C'était après la terminale, donc ça devait être ma première ou ma deuxième année d'études. J'avais 19 ou 20 ans.
Il dure combien de temps, battement d'ailes?
32 minutes, voilà. Une trentaine de minutes.
Un film d'animation de 32 minutes.
Non, il n'y avait pas que... Enfin, il y avait entrecoupé oui. de...
Mais enfin, oui, il faut quand même le faire. Moi, je crois que en animation, tous les films que j'ai faits mis ensemble doivent faire une durée de 2 minutes 30 à peu près. donc 30, même plus de 30 minutes, même si c'est pas tout animé, c'est quand même un travail assez remarquable, assez fou. On était un peu dans le même registre que Gris, mais enfin. Il y avait le côté poétique,
oui,
rencontre.
C'est une énumération à la Prévert.
Voilà. Et ça, vous en gardez quel souvenir? Pourquoi vous l'aviez fait?
C'est une trop bonne question. Pourquoi j'avais fait ça? J'aimais beaucoup faire du cinéma d'animation. Voilà, déjà. Je trouvais ça assez magique de. J'ai trouvé ça assez dingue de créer du temps qui n'existait pas. C'est de me dire, tiens, il y a 2 minutes qui n'existaient pas et maintenant, paf, elles existent, c'est 2 minutes à regarder. Je trouvais ça dingue. Et le côté un dessin qui bouge, je trouvais ça assez fou aussi.
Vous aviez utilisé quelle technique?
Il y avait de tout. Il y avait du stop motion, il y avait
papier découpé.
Il y avait du papier découpé, il y avait des trucs en peinture aussi, il y avait de la peinture qui se mélangeait au fur et à mesure. Il y avait vraiment du dessin d'animation plus classique avec des personnages qui bougeaient. C'était un gros fatras de plein de choses. Je crois que l'école Émile Cole, elle était quand même bien carrée aussi.
C'était pendant Émile Cole?
C'était pendant les vacances d'Émile Cole, en fait.
Ah oui, d'accord.
Pendant Émile Cole, on faisait que Émile Cole.
Donc il y en a qui passent leurs vacances sur une plage pour se décontracter. vous replongez dans le truc et vous passez deux mois à faire
la plage des fois,
une demi-heure de film.
On a été deux à réaliser ce film. Du coup, ça a été co-réalisé avec Grégory Wozniak, qui était un ami. Et je pense qu'il y a eu cette rencontre-là aussi qui a fait qu'on a eu envie. Lui, il avait un côté très technique et moi, j'avais un côté un peu plus créatif éparpillé, on va dire. Et je pense qu'on s'est bien rencontrés là-dessus. C'est que lui, il avait envie de faire des films sans forcément trop savoir quoi raconter. Et moi, j'avais envie de pouvoir tester des trucs sans devoir comprendre comment fonctionnait l'ordinateur. Ça s'est assez bien équilibré. Oui, je pense que ça me manquait de faire de l'animation et de tester plein de trucs, puisque j'avais eu la chance de faire ça au lycée. À ce moment-là, ça me paraissait... C'était un moment où je me disais, peut-être aussi que ça pouvait être une voie professionnelle, puisque à Émile Cole, il y avait une formation aussi d'animatrice. Il y a 2 années très académiques où on fait tous des drapés. Et après on choisit... ce qui s'appelle ou papier, où on fait bande dessinée, graphisme, presse, etc. Ou anime, où on fait beaucoup d'animation. Et en fait, l'animation, c'est beaucoup trop rigoureux et régulier pour moi.
C'est un travail énorme pour...
Oui, et puis...
C'est pas très gratifiant.
Sans doute que si d'un côté... Ça demande d'être très très rigoureux. Et généralement aussi, c'est un gros travail d'équipe où on peut pas... On peut difficilement fonctionner sur ses propres projets. Mais c'était chouette.
Justement, alors, travail d'équipe... Oui, pardon.
On peut le voir quelque part.
Il doit y être, mais...
Moi, je dois voir un DVD. donc, je peux le passer.
Vous avez ici... je vais vous mettre à l'honneur, vous avez ici... professeur d'audiovisuel de quand j'étais au lycée, d'ailleurs. Grâce à qui j'ai pu faire tous ces films. Merci.
Il y en avait d'autres. Dans le lycée, quand je me souviens plus des titres.
Ça, c'était en seconde, ça. Ouais. Et c'était... Ça a démarré très tôt. Oui, c'est vrai que le premier, c'était en seconde. Mais je pense qu'on peut le voir sur YouTube.
Sur YouTube.
Oui.
On tape Léa Twitou et on a le...
Oh non, tu tapes Léa Twitou, je sais pas. c'est quelque chose de chelou. Je crois qu'on tape battement d'aile, alors c'est d'aile, D-E-2-L-E. Je pense qu'on peut le trouver comme ça.
On cherchera.
Après, je ne sais pas si c'est le meilleur truc du monde non plus. Hein.
Par curiosité, parce qu'on en plus, faut quand même, faut savoir.
C'est ça, ça d'un coup une explosion, un buzz de folie.
De 8 à 10
bientôt.
Oui, je reviens sur cette idée de collectif, de travail collectif et tout ça. Ce qui a failli être Caravane d'images.
Oui.
Ça aurait dû être un projet collectif. Qu'est-ce qui s'est passé? On va parler de caravane d'image.
C'est tout un. C'est tout un truc qui s'est enchaîné. Quand j'étais dans ma dernière année, enfin entre ma deuxième et ma troisième année de l'INILCOL, on devait faire un stage. On ne pouvait plus prendre des vacances et aller à la plage ou faire de l'anime, on devait faire des stages pendant les vacances. Et du coup, je me suis dit, c'était toujours difficile, et je me suis dit, je vais aller faire un stage à l'étranger. C'était l'école, mais c'était aussi, entrer dans la vie adulte, avoir 20 ans, c'était compliqué. Et du coup, j'ai écrit à des maisons d'édition, j'ai pris un guide de l'édition francophone, et j'ai écrit à plein de maisons d'édition qui étaient à l'étranger, ou dans les dom-tom, on va dire, hors métropole. Donc j'ai écrit vraiment un peu à tout le monde. En Guyane, au Luxembourg, en Belgique, en Tunisie, voilà. La seule contrainte, c'était francophone. C'était que ce soit loin et francophone. J'avais trop peur d'aller faire un stage dans une autre langue. Je me suis dit, déjà loin. Et en fait, il y en a quelques-unes qui m'ont répondu, dont une maison d'édition qui était au Cameroun, qui m'a dit, on peut vous prendre un stage pendant 3 mois dans une maison d'édition qui est à Yaoundé. On peut même vous loger. Et c'était très nouveau, c'était très loin. Je savais pas du tout, j'aurais été incapable de situer le Cameroun. Donc j'ai été chercher sur une carte, et je me suis dit, oh là là, c'est vraiment loin. Et je me suis dit, ok, allons-y maintenant. Et voilà, du coup c'est...
Alors pour nous, Béotien, par exemple, le Cameroun, c'est
Le Cameroun est en Afrique, plutôt en Afrique de l'Ouest, enfin il est considéré comme faisant partie d'Afrique centrale. Et ça...
Il est au milieu des terres, il n'y a pas de côte.
Il y a une côte. Douala est sur la côte.
D'accord.
On a la corne, oui, comme ça, là.
Non, la corne, elle est de ce côté. Là, c'est la Bosse.
Oui, enfin, la Bosse, comme ça, là, avec un creux. Avec le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Togo, le Bénin, le Nigeria et le Cameroun. Le Cameroun touche le Congo, je crois bien, et le Nigeria.
D'accord.
Voilà.
Bah, là, tout le monde s'y tue.
Voilà. dans le creux, un peu loin. Voilà. Et du coup, j'ai été passer 3 mois au Cameroun, à Yaoundé, aux éditions Tropiques. Et c'était... C'était tellement autre chose que ce que j'avais connu. C'était... ça a été plein de choses en même temps, en fait. Moi, j'étais jamais partie aussi loin. J'étais jamais partie aussi longtemps. Et c'était vraiment... C'était un univers qui était aux antipodes de ce que je connaissais. Ça m'a fait un peu grandir d'un coup aussi, j'imagine. Voilà, la première semaine, je me suis dit, oh mon dieu, c'est pas possible, il faut que je rentre chez moi. Et après, c'était vraiment cool.
Vous y avez fait quoi
dans le cadre plein de trucs. Alors, c'était une petite maison d'édition qui s'appelait les Éditions Tropiques, mais qui faisait un peu tout. C'était. Ça avait cette espèce de côté très camerounais de on va labelliser un truc, on va faire aussi d'autres choses. Donc, ils touchaient à ce qui était édition, mais ils faisaient aussi des festivals de musique, ils travaillaient avec Plan, qui est une ONG qui fonctionne un peu comme l'UNICEF. Donc ils allaient animer aussi des émissions de radio dans les villages en brousse, ils organisaient des concerts, ils faisaient des petits livres, des petits coloriages. Donc moi, on m'a... Moi déjà, j'ai déjà juste un peu suivi le temps de m'acclimater. Et après, on m'a proposé il fallait que j'ai un rendu aussi de mon stage, donc on m'a proposé de travailler sur un livre de coloriage. Mais ça questionnait les problématiques du Cameroun, qui sont que le livre n'est pas forcément facile d'accès, que le livre est assez cher, et que c'est pas un achat facile, entre guillemets, comme il peut l'être ici. Donc c'était un livre qui devait être pédagogique, qui devait être pouvoir s'utiliser dans les écoles et qui avait l'aspect coloriage aussi. C'est-à-dire que c'était pas un coloriage comme on peut avoir l'habitude de l'image en couleur d'un côté, l'image en noir et blanc de l'autre et puis on recopie. C'était un petit livre illustré qu'on pouvait colorier, mais qu'on pouvait aussi... Il y avait plein de petits exercices un peu dedans, de reconnaître des arbres, de nommer des objets qui commencent par telle lettre. Enfin voilà, c'est une espèce de petit livre un peu... Et puis il était en français et en anglais, puisque le Cameroun est francophone et anglophone. Donc j'ai travaillé avec une jeune femme anglophone pour qu'on ait la
Je crois que j'ai jamais vu ce livre, moi aussi.
Non, mais plein de gens ne l'ont jamais vu. Je dois en avoir un exemplaire qui traîne, parce qu'il a été imprimé
Sur place. Et puis,
sur place, moi j'en ai rapporté un. C'est pas du tout quelque chose qui a été ensuite publié. Par contre, j'ai fait mon rapport de stage dessus. J'ai fait ça. Et puis, il y avait un petit... d'exercices aussi d'illustration autour des droits des enfants, pareil en lien avec l'ONG. Enfin voilà, c'était plein de choses. Ça a été un moment vraiment où j'ai rencontré plein de gens. C'est vraiment une autre univers.
Et du coup, cette première expérience au Cameroun,
ça a été super chouette. Bah, en fait, à la fin, ils m'ont proposé de rester. En fait, la maison d'édition que j'avais travaillé pendant 3 mois, elle m'a dit, mais si tu veux, on te salarie. Tu peux rester au Cameroun pour toujours. Et voilà, je pense pendant 15 secondes j'ai vacillé un peu, puis après j'ai imaginé le coup de fil à mes parents de tout ça, finalement pourquoi ne pas rester ici. Non, j'avais trop donné, je suis allée rater mon diplôme,
le dessin, la BD, voilà, et après la
Mais du coup j'y suis retournée.
En tout cas voilà, Juliette, ça vous a inspiré un retour.
Oui.
Je me suis dit comme ça que, je sais pas, parce que vous êtes allé aussi en Italie, en Espagne, au Québec.
Oui, aussi.
Mais l'Afrique, quand même, y revenir, parce que je me suis dit, c'est l'Afrique, contrairement aux autres pays, c'est une garantie d'altérité, quoi.
Ah oui, quand même. Oh, le Québec, c'est bien au niveau altérité.
C'est bien aussi, mais je sais pas si on cherche forcément un exotisme à raconter, qui peut inspirer des récits, mais si on en a besoin, c'est là qu'on en trouve.
Oui, je pense que je pense que c'est arrivé au bon moment, en fait, aussi. C'est arrivé au bon moment, dans le sens où il y avait l'école, il y avait l'entrée dans l'âge adulte, il y avait plein de choses, et j'avais l'impression avant d'être dans une autre vie. Ça me paraissait très incongru ensuite d'être en France et de me dire la vie là-bas continue, les gens continuent d'exister, le pays existe toujours, les gens continuent leur vie. Ça me paraissait vraiment deux univers qui ne pouvaient pas coexister. Et oui, c'est vrai que à chaque fois, le retour en France, c'était un peu... je me sentais plus joyeuse là-bas.
Et donc, vous décidez d'y retourner. Voilà, alors, ce ne sera pas le Cameroun. Sénégal, pourquoi? Donc, on va parler de caravane d'images.
Voilà, j'ai eu la possibilité de retourner au Cameroun. Suite à ça, j'ai eu la possibilité d'aller au Burkina Faso pour un autre projet. Enfin, voilà, j'ai commencé à avoir un petit panel d'endroits que j'avais eu la chance de voir, où j'avais eu la chance aussi de m'être fait des amis, d'avoir des contacts, etc. Je pense qu'il y a ça qui a joué aussi, c'est que j'ai eu l'impression de me faire des amis plus facilement là-bas qu'en France. Et du coup, rapidement, j'ai eu vraiment un cercle amical, voire quasiment familial là-bas. Et du coup, pendant quelques années, ça a été, je travaillais 8-10 mois en France pour gagner des sous, et puis après, je partais 2 mois au Cameroun, au Burkina, puis je revenais. Et du coup, je me suis dit, très bien, faisons un grand voyage maintenant, au lieu de revenir tout le temps en France. Et il y a eu un projet qui était très farfelu, qui s'est monté, qui s'appelait Caravane d'Images. Et Caravane d'Images, c'était...
Mais ça, c'était votre projet ?
Oui.
Vous dites qu'il y a eu un projet.
C'était le mien.
Votre projet, voilà.
Mais en fait j'ai tellement eu l'impression que ça s'est décidé, souvent ça, j'ai eu l'impression que ça s'était décidé un peu sans moi, d'un coup je me suis dit tiens, il faut faire ça maintenant, mais c'est un peu comme le métier de la bande dessinée,
j'allais dire vous avez de la chance pour ça, parce que c'est pas le cas pour tout le monde.
Non, oui, je
on peut avoir envie d'un truc qui se fait pas, ça arrive.
Oui, mais ça s'est pas fait comme prévu du tout.
Oui, voilà, justement, je parlais tout à l'heure d'expérience collective, qui aurait dû être collective, oui. Donc Caravane d'Ivage, ça aurait dû être collectif. Alors, c'est raconté là dans ces deux albums, surtout.
Voilà,
ça commence là, dans celui-ci, Café Touba, où l'histoire justement de Caravane d'Ivage est racontée. Comment ça se passe justement, Caravane d'Images ?
Eh ben, l'idée c'était de partir à plusieurs personnes. On était plusieurs à être. c'est un projet que j'avais monté, mais il y avait plusieurs personnes intéressées autour. Et l'idée, c'était de partir. Il y avait quelqu'un qui faisait de la réalisation de documentaires et du montage. Il y avait quelqu'un qui était photographe. Il y avait quelqu'un qui était projectionniste. Enfin voilà, c'était un projet où on était 4 ou 5 au début. Et l'idée, c'était de faire un voyage itinérant du Sénégal au Cameroun, donc sur presque un an, en faisant voilà, des étapes dans différents pays, et à chaque fois de proposer des ateliers autour de la fresque, autour du dessin, autour du cinéma, voilà, de filmer en même temps ce qui était fait. C'est une espèce de grand projet de voyage un peu autour de la rencontre et oui, d'ateliers artistiques. L'idée, c'était de proposer d'animer bénévolement auprès d'écoles, de centres culturels, d'instituts, d'associations, des ateliers artistiques. On pensait beaucoup à la fresque parce que c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup au Cameroun, au Burkina Faso. Donc on s'était dit que c'était le média le plus pertinent.
Et puis qui va rester.
Et qui est pérenne aussi. Et voilà, de proposer ça bénévolement et en échange de pouvoir être hébergé. Et voilà, de faire un voyage autour de ça. Et en fait, ça a planté. Plus la date, on a obtenu un financement de la région Rhône-Alpes pour ça. C'était ce qu'ils appelaient les bourses prodiges à l'époque, qui n'existent plus.
Ils sont peut-être remplacés par d'autres choses, mais non. Depuis, depuis un changement de président de région, peut-être.
Remplacés par autre chose, mais pas pour nous. Ouais. Mais voilà, il y avait les bourses prodiges qui avaient financé une petite partie de ce projet-là. Et en fait, plus la date se rapprochait, plus c'était compliqué.
Plus vous étiez toute seule et vous finissez par partir seule.
Oui, à la fin, il n'y avait plus que moi. Pendant un grand moment, on a été deux. Et c'est une très bonne amie à moi, avec qui on est restés très amis d'ailleurs.
Qui a renoncé.
Oui, mais qu'il a bien fait entre guillemets, qui m'a dit bah, je le sens pas, je veux pas le faire comme ça, c'est trop pour moi, etc. Et c'était, moi j'ai préféré qu'elle me le dise avant de partir plutôt qu'au bout de 2 semaines sur place et mais du coup il y a eu un grand moment de est-ce que je le fais quand même du coup parce que c'était complètement différent toute seule et en fait oui.
Voilà. Et donc, voilà une lecture que je vous conseille, Café Touba et sa suite, Soumigal, paru aux éditions Jargil. Alors ça, c'est une maison d'édition stéphanoise, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, et qui, ils sont open, ils cherchent des projets comme ça, un peu singuliers, et je pense que ça correspondait pile à ce qu'ils voulaient. Donc, ce sont des albums qui restituent votre parcours au Sénégal, dans ce projet. Alors, vous parliez de réaliser une fresque, etc., avec les écoles et tout ça. Ça, finalement, le moment de réalisation tient finalement assez peu de pages.
Oui,
dans l'ensemble.
Mais parce qu'ils n'avaient pas forcément en tête de faire une BD. Il faut savoir qu'en fait, pareil, c'est un sujet que je n'ai pas forcément choisi à la base. Je suis allée voir les éditions Jargil parce qu'ils publiaient des tout petits albums. Alors, je me permets de montrer celui-ci, de ce format-là, qui était tout petit. C'est pas la même collection, ça s'appelait la collection BN. Et c'était des tout petits albums de 20 pages en noir et blanc qui devaient être sur la thématique de l'enfance. Et voilà, moi je revenais de caravane et je me suis dit, je vais vraiment faire de la BD. Un petit album de 20 pages, c'était spécifiquement pour les jeunes auteurs. Donc je me suis dit, ça a l'air d'être chouette d'aller les voir et de leur proposer ça. Et du coup, quand je leur ai écrit, ils me sont dit, viens me voir à tel festival et puis apporte un peu les dernières choses que tu as fait. Et je revenais de voyage, donc j'avais pas grand chose. J'avais plein de petits carnets de croquis, plein d'humidité qui sentaient mauvais. Et donc je leur ai apporté ça. Je leur ai dit, c'est que j'ai pas eu de grands projets récemment parce que j'étais en voyage. Et voilà, j'aimerais bien faire un tout petit album chez vous, voilà un peu comment je dessine. Et en fait, ils m'ont feuilleté ça, ils m'ont dit, mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est chouette et tout. Et donc j'ai expliqué un peu les grandes lignes du truc et ils m'ont dit mais on va pas faire un petit album, on va faire un gros album ensemble, il faut que tu racontes ton voyage, tu penses 80-90 pages et puis tu nous racontes ça. Moi j'étais un peu...
Et 110 pages.
Là ça fait 110.
En deux tomes.
2 fois 70, et c'est que le Sénégal en plus. Parce qu'au début je me disais, ah, je vais raconter tout le voyage, puis j'ai commencé à... J'ai dit, bon, je vais raconter le Sénégal, et puis en fait après ça a été la moitié du Sénégal.
Et c'est déjà très riche.
Oui, c'était déjà beaucoup.
Là aussi, on parlait tout à l'heure des anecdotes dans la photo Molière, là aussi il y a c'est bourré d'anecdotes. Et ce que je voulais dire en disant que la partie, l'objet pour lequel vous étiez parti, qui était cette histoire de fresque, tient un peu de place parce que en fait, il s'agit surtout de rencontres.
Oui, et puis
rencontres avec les gens, avec les histoires des gens, et rencontres aussi avec l'histoire africaine. En réponse un peu à sans faire politique non plus, à certains présidents qui avaient estimé que l'homme africain n'était pas assez rentré dans l'histoire. Et donc, oui, j'imagine que ça les a. Et donc, il y a. Vous rencontrez des gens qui vous racontent aussi la grande histoire africaine. Il y a dans celui-ci sur. Est-ce que d'ailleurs vous pourriez lire ça?
Ah ouais?
Ouais, par exemple. c'est marrant parce que à la lecture. On perçoit l'accent.
Ah, je ne ferai pas l'accent.
Mais vous n'allez pas faire l'accent. On ne va pas s'autoriser ça. Mais, n'empêche que, on ne connaît pas, on sent. Moi, j'étudie l'histoire. Ah oui, non. Alors, Toubabou. Toubabou, c'est un surnom.
C'est
la petite blanche, quoi.
Toubab, c'est les blancs. Et Toubab, c'est les blancs. Comme ça qu'on dessine au Sénégal.
Et donc, Léa rencontre un jeune homme qui s'intéresse à l'histoire.
Voilà, jusque-là. Jusque-là ?
Ouais.
Alors, j'ai jamais lu de la bande dessinée.
On va voir ce que ça donne. C'est pour ça que les jeudis des boiseries existent.
Il y a des dessins, hein, c'est pas que du texte.
On imagine.
Et on est en balade, et du coup, c'est quelqu'un que je connaissais pas. C'est parce qu'on part en balade, et puis on est rejoint par le cousin du cousin, puis la petite sœur du cousin, puis la voisine de la sœur. Donc, à la fin, on était 15 à se balader ensemble. Alors, Toubabou, le Sénégal, ça te plaît ? Oui, je crois. Je suis arrivée avant-hier. Tu viens faire quoi ici ? Les ONG ? Non, du dessin. Moi, j'étudie l'histoire. L'histoire de mon pays, de mon continent. La grande histoire africaine. Est-ce que toi, tu connais ça ? Eh non ! Alors que moi, vos choses, là, Marigny en 1515, Bastille 1789, Napoléon, l'histoire de chez toi, je connais. Mais chez vous, là-bas, vous apprenez seulement la colonisation. Afrique, esclavage, fini. Eh, vous croyez qu'on n'était pas là avant ? Qu'on a existé seulement colonisé ? Alors, d'abord il y a l'empire du Ghana, grand. C'est l'ethnie des Soninkés qui le fonde. Le premier des trois grands empires, le pays de l'or, des siècles de pouvoir, la grande armée, le tribunal sacré, la conquête, et comme ça jusqu'au XIIIe siècle. Et là, 1420, le deuxième empire, l'empire du Mali, grand. Tu connais Sungata Keta ? Grand fondateur, grand Mali. Et là, XIIIe siècle, voilà, empire du Djolof, nous, les Wolof. Le grand Jolof, avec Ndiaye Gaye. Alors, je fais une parenthèse là-dedans, parce qu'il m'a présenté ça comme un truc de dingue, et après, quand je me suis renseignée, l'empire de Wolof est très 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 petit. Effectivement, le Mali, c'est un truc de dingue, l'empire du Ghana aussi, c'est un truc de malade. Quand je cherchais l'empire des Wolof, je savais deux lignes, c'était plus petit que ce qu'il y a. Mais bon, voilà, il y a eu... Bon, et au milieu de tout ça, islamisation, première traite des esclaves, les Arabes, et tac, les Blancs. Famine, guerre, tout, waï, tu connais. Mais avant, mon ami, avant les Toubabous, les Wolof dans le Terrecourt, dans la vallée du fleuve Sénégal, tous ensemble, Wallo, Kayor, Fouta, Sinessalou, un grand peuple. Tu suis ? Un grand peuple avec un grand passé. Tu vois votre ancien président qui est venu dire ici même que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire ? Nous si ! Tu connais même nos historiens ? Non ? Cheikh Anta Diop ? Abdoulaye Ali ? Mamadou Diouf ? Notre histoire, elle est grande, elle est riche, la civilisation même, le berceau de l'humanité. Est-ce que parce que ce n'est pas écrit dans vos livres de blanc, c'est faux ?
Voilà, une petite leçon d'histoire, d'histoire africaine, et aussi je suis sur la page sur les signards. Je ne sais pas si vous voulez expliquer un petit peu ce que sont les signards, mais il y a plein comme ça aussi d'aperçus documentaires.
Oui, c'était des
des découvertes. Moi, le mec, les signards, je ne connaissais pas.
Mais moi non plus. Enfin, il voilà. Y a eu tout à l'heure la question de pourquoi retourner dans mes pays africains, souvent par rapport à l'Espagne, l'Italie, le Québec, je me suis jamais sentie aussi, aussi naïve, aussi innocente que j'avais l'impression d'apprendre des trucs tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est que cette idée d'autre univers, c'était vraiment, j'avais l'impression de rien connaître. Et d'un côté, c'était très frustrant, mais d'un autre côté, c'était assez dingue.
Oui, j'imagine.
C'est cette espèce de monde où tout paraissait évident pour tout le monde. Moi, j'étais là. Tout était absolument nouveau, absolument incongru pour moi. Et c'est ce émerveillement perpétuel de choses dont je ne me doutais pas jamais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup.
Donc vous restituez comme ça certaines histoires ou certaines histoires au pluriel, oui. Donc les Signards, si vous voulez en parler un petit peu.
Oui, en comme
oui,
ça.
Vous voulez dire, ben, parler comme ça. Donc, le dessin, je ne sais pas si tout le monde voit, mais un très joli dessin sur.
Ah, je sais pas si tout le monde voit. C'est inspiré d'une gravure
une Signard.
Alors les Signards, c'est. Où je relise un petit peu pour être sûr de pas.
Bon, c'était des épouses, oui, voilà. Des compagnes de.
Voilà. Alors c'était spécifique, c'était spécifiquement. Pardon. Oulala. J'ai cassé le.
Non.
C'est
bon,
ça marche. c'était spécifique au Sénégal, beaucoup. Enfin, c'est un terme spécifiquement sénégalais. Et on appelle en fait la ville de Saint-Louis du Sénégal et l'île de Gorée qui est pas très loin. Les îles Signards. Les Signards, c'était à l'époque de la colonisation et c'était des très belles femmes sénégalaises qui généralement étaient choisies par les colons ou qui choisissaient elles-mêmes les colons et qui devenaient leurs maîtresses. Donc à des degrés divers et variés, puisqu'il y en a eu qui ont vraiment été mariées officiellement. Voilà, il y a eu des colons qui avaient deux vies parallèles, qui avaient la vie en France et la vie au Sénégal avec à chaque fois une femme, des enfants, qui ont acquis vraiment. Un rang social, des richesses, etc., dont les enfants métis, du coup, étaient très éduqués, et étaient parfois, pour certains, héritiers, aussi, avec ce que ça comporte de...
Ça fondait une sorte d'élite dans le pays, quoi.
C'était une espèce d'élite métissée, et ça a été pour les femmes une possibilité d'acquérir un rang social, une puissance, un respect, qui n'était pas forcément facile à acquérir autrement. Et c'était les premières communautés métisses d'élite, en quelque sorte. Oui, voilà. Ça...
Voilà une découverte aussi, les talibés. Moi, j'ai découvert aussi le mouridisme. Vous connaissez le mouridisme? C'est une des...
Une variante
de l'islam, très originale.
Oui. Moi, j'aime beaucoup. Je la trouve
très originale, avec des personnages qui sont des sortes de... dans le christianisme, ça aurait été des moines mendiants, un peu, des personnages comme ça.
C'est au début,
page 19. Voilà. Mouridisme. Avec un fondateur. Une sorte de messie. Et qui a créé, fondé le mouridisme. Alors comment on appelle les baïfales.
Les baïfales.
Qui sont les adeptes du mouridisme et se promènent toujours. Ils sont pauvres.
Oui, alors pareil, il va y avoir. Moi, quand j'ai fait Sounougal, j'ai reçu des mails de professeurs sénégalais qui me disaient oui, mais alors vous présentez le mouridisme comme ça, mais dans les textes il est comme
c'est
ça, et vous présentez les baïfales comme ça, mais. Comme dans tous les courants religieux, j'imagine, il y a plein d'écoles et il y a plein de perceptions. Moi, je me suis basée aussi sur des textes, ce que je présente, ce que j'en ai perçu et ce que j'ai trouvé dans certains textes, il y a d'autres textes et d'autres perceptions.
Justement, tiens, sur cet aspect-là de documentaire.
Oui.
Donc, et j'avais pensé que dans Café Touba, le jeune homme que vous rencontrez, qui vous parle de l'histoire du Sénégal, du Sénégal et autres, de l'Afrique, c'était un personnage fictif que vous aviez imaginé.
Ah, mais moi, je l'ai rencontré.
Non, vraiment.
Ah, mais non.
D'accord.
Elle
a trouvé. Elle voulait raconter ça et elle imaginé un personnage qui. Et donc, pour le mouridisme, en fait, ça va au-delà. Enfin, il y a une personne que vous rencontrez, mais vous vous documentez pour.
Oui.
Donc, si vous voulez connaître le mouridisme, disait Sunugal. Hein. Y a un passage aussi assez, assez fort sur, sur l'île de Gorée. Donc l'île de Gorée, ben, vous savez, c'est le point de départ en Afrique des esclaves pour le commerce triangulaire. Et là, il y a un point de vue que j'avais, moi, jamais perçu sur cette porosité entre un lieu d'histoire patrimoniale d'une histoire très, très dure, très forte, et le tourisme,
oui.
Le grand tourisme un peu puant et tout se mêle.
Moi, vraiment, autant il y a eu des endroits divers et variés dans divers pays où j'ai été très émue, très touchée par le poids de l'histoire, où ça m'a remis, etc. De Gorée, ça, c'est très curieux. Ça fait une espèce de mélange très, très, très curieux. Il y a l'aspect historique, du coup, de ça a été. Alors, sachant que cet aspect a été vraiment poussé, parce que Gorée, ça a été un tout petit port d'esclavage par rapport au Bénin, par rapport à d'autres endroits. Mais voilà, il y a plus de choses qui ont été conservées. Il y a l'espèce de porte sans retour où on faisait embarquer les esclaves. Il y a la maison des esclaves qui a eu un conservateur qui était très très connu pendant un moment parce que c'est quelqu'un de très très érudit, donc il a aussi beaucoup fait parler de lui. Donc voilà, il y a ce côté-là avec voilà, un passé dramatique, dur, avec une exposition autour de ça, etc. Mais en fait, juste à côté, on est aussi, on a l'impression des fois d'être en Provence ou d'être en Italie. Il y a plein de façades colorées, il y a des fleurs partout, il y a des bougainvilliers, les gens se promènent. Ça a un côté aussi, c'est très beau. Et du coup, ça paraît très curieux de voir ça comme un endroit très beau. C'est ensoleillé, on est au bord de la mer. Voilà. À côté, du coup, il y a vraiment un rapport un peu touristique avec voilà des gens qui viennent vous vendre des gravures, des bracelets, des vases. Donc voilà, on essaye d'intégrer le poids de l'histoire avec un petit pas cher, tu veux pas ça. Donc on est perdu un peu. Il y a des enfants à Gorée qui des ados à Gorée qui il y a les bateaux du coup qui font la liaison Gorée-Dakar. Et du coup, il y a des enfants dans le port qui disent tout bap, envoie-moi une pièce. Et donc on jette des pièces de 100 francs, 200 francs, 500 francs, donc ça équivaut à 20 centimes, 30 centimes. Et les enfants jouent à plonger pour aller récupérer les pièces. Et c'est très curieux, ça, c'est un mélange de tout. Et il y a aussi des Sénégalais qui vont à Gorée pour la plage. Donc qui vont avec voilà, les parasols, les serviettes, les enfants se baignent.
C'est une culture locale.
Et ça fait un mélange de tout. On se dit, ouais, le cerveau chauffe, c'est ouais, pour moi, c'était
plus,
trop
plus les vieilles françaises qui
oui,
ont...
Oui, il y a aussi ça, il y a aussi les
jeunes amants à disposition.
Très, très voilà. Marqués, qu'on appelle les mamans cadeaux ou les papas cadeaux au Sénégal. Donc, ça, ouais, moi, ça m'a fait trop d'infos condensées au même endroit. Ouais. Mais c'était vachement intéressant, parce qu'on a envie d'y passer. C'est ça, c'est qu'on vient à Gorée une après-midi, puis on se dit, ok, il faudrait passer 2 mois ici à regarder tout ce qui se passe jour après jour. Il y a de quoi faire un livre sur Gorée, vraiment.
Ouais, oui. Là, sur les deux albums, on va passer un peu vite maintenant, parce que l'heure tourne. Non, c'est normal. Juste quelques mots-clés, comme ça, si vous voulez réagir à ça. Je vais aller un peu plus vite que j'avais prévu. Si je vous dis pirogue. Vous me dites enclume. Non, raté, c'est pas ça. Non, ça me semblait. Voilà, bon, l'idée du mot-clé, c'était de faire repenser à quelque chose.
Non, bah,
à ce titre-là, Sunugal.
C'est, oui, en fait.
Le rapport avec la pirogue.
Alors, bah, je peux raconter l'histoire rapidement.
Oui. Vous êtes un peu là pour ça.
En fait, c'est ce qu'il y a. Il y a eu le fait aussi que les deux albums ont été construits un peu en diptyque, on va dire, avec voilà, un Café Touba qui se passait vraiment en Casamance, plutôt en brousse, on va dire, dans les villages, et Sunugal qui parle de Saint-Louis du Sénégal, qui du coup est vraiment une ville d'eau avec des pirogues partout qui traversent. Il y a plein d'histoires autour des pirogues à Saint-Louis, c'est vraiment un peu l'élément clé de la ville. Mais je raconte dedans une histoire qui est souvent présentée comme vraie au Sénégal, mais qui est
qui est plus légendaire et qui est jolie,
une petite entorse à l'étymologie qui parle du nom en fait du Sénégal. Et donc on raconte que quand les colons sont arrivés pour la première fois au bord du fleuve et qu'ils ont interrogé des pêcheurs et ils voulaient savoir comment s'appelait le fleuve, et donc ils ont désigné le fleuves, les bateaux, tout ce qu'il y avait devant eux, en disant, mais ça, comment ça s'appelle? Et du coup, les gens qui étaient là ne pigeaient rien du tout à ce que demandaient les colons, et leur ont répondu, waouh, Sunugal. Donc ils me disent, ah, Sunugal, en désignant le fleuve, ils disent, Sunugal. Et du coup, ils se sont dit, ah, bah, ça doit être le nom du fleuve, Sunugal, et ben, on devrait appeler le fleuve, et peut-être le pays, le Sénégal, ça sonne bien. Et en fait, Sunugal en Wolof, ça veut dire, ça, c'est notre pirogue. donc du coup, moi, je trouvais cette histoire très, très jolie. Et du coup, les Sénégalais s'en resservent beaucoup pour dire que le Sénégal est un pays où tout le monde est sur le même bateau, que c'est un pays bateau, un pays pirogue, où on retrouve ben, plein d'ethnies, plein de cultures différentes, mais malgré tout reliées dans le même pays. Et j'aimais bien cette idée. Et au moment où on me l'a raconté, il y a quelqu'un qui a coupé en disant « Non, non, il dit qu'il te raconte ça, mais étymologiquement, c'est pas vrai. » Et la personne a coupé en disant « Mais moi aussi, je suis historien et je suis historien d'histoire. » Et je trouvais ça très joli, cette idée d'historien d'histoire et de... Voilà, et on
qui vaut les diplômes, les diplômes
voilà,
d'historien. Il y a une suite on l'a présentée tout à l'heure, de ces deux albums, qui s'appelle L'Instant T. C'est tout récent, ça?
C'est tout récent, là, c'est sorti pour Angoulême, là, c'est sorti là,
voilà, c'est
tout chaud.
Ça s'appelle L'Instant T, ce qui est une sorte de... Ouais, de... J'allais parler presque de conclusion, et je vais m'expliquer,
peut-être.
Parce que, du coup, j'explique. Ces deux albums-là se terminent par, à chaque fois, c'est un coup de fil,
oui.
Et vous êtes en partance ou en transit. Ou, voilà.
J'avais jamais remarqué qu'il s'est
j'arrive dans un cas, il y a... j'ai noté, bien sûr, parce que je suis sérieux, ça va bien aller aussi, ouais. Avec le verbe aller qui induit l'idée de départ, de continuité, de prolongement. Et là, la dernière scène de l'instant T, c'est une scène intimiste,
oui.
De famille, où on est posé.
C'est vrai.
Et on a le sentiment que...
Ça a bouclé quelque chose.
Ouais, ça a bouclé et que vous êtes arrivé là. Okay. C'est j'arrive et puis là vous êtes arrivé.
Ouais, ben, pareil, c'est pas quelque chose que j'avais prévu faire, mais c'est vrai que ça se boucle très très bien. En fait, ça s'est inscrit dans les projets des éditions Jargy de nouveau qui font des tout petits albums. Donc il y a toute la collection BN qui parlait de l'enfance. Et là ils ont une nouvelle collection, c'est la dernière série de la collection, donc c'est les mêmes formats mais avec les petits coins arrondis, ça s'appelle les sous-bocs. Et c'est une thématique, c'est la thématique de la boisson, pas forcément l'alcool, la boisson. Il nous le précise à chaque fois. En fait, à la toute base, moi, on m'avait proposé, c'est une espèce de truc, c'est le journal Spirou que j'avais rencontré à un truc, qui m'ont dit, ah mais nous on fait des carnets de voyage régulièrement pour les abonnés, est-ce que tu voudrais pas faire un test, un projet carnet de voyage pour nous? Et du coup, je leur ai fait une proposition. Et ils m'ont dit, nous ce qu'on aime bien c'est les histoires un peu familiales. Et comme après Café Tout Bas, en fait, ma maman m'a dit, oh là là, mais dis donc, ça donne envie d'aller au Sénégal, etc. Et donc on est parti avec ma maman au Sénégal. C'était la grande aventure pour moi et pour ma maman. Et du coup, c'était en plus l'occasion d'offrir Café Tout Bas au personnage du livre. Donc
c'était un très chouette retour
aussi pour moi de revenir sur les lieux avec ma maman. Donc en plus, moi j'étais déjà venue, donc j'avais amené ma maman. D'autant plus au Sénégal, il y a une relation très forte aux mamans, aux liens familiaux. Donc, quand j'ai dit maman de Léa, ça a été très très bien accueilli. Donc, j'ai voulu raconter ça. Voilà.
Ouais. Alors, excusez-moi de vous interrompre, voilà. Cher Léa Tritou. Dans les mots-clés que je voulais vous donner à matière à réflexion, Léa, tout simplement.
Léa, mon prénom?
Oui.
Ou Léa?
Léa, le prénom Léa. Il y a quand même une importance énorme dans Café Tout Bas.
Dans Café Tout Bas, oui, c'est vrai.
Ça se termine.
Oui, c'était très chouette. J'ai cru qu'on allait faire l'étymologie de mon prénom.
Non, c'est pas le
c'est pas
ce soir, enfin, un truc là-dessus. Mais,
En fait, dans tout le bouquin, il y a une espèce de relation à la maternité aussi. C'est des trucs que je découvre après. Mais là, le fait que les deux bouquins se terminent par un coup de fil, je ne le savais pas. C'est un truc que j'avais pas remarqué. C'est marrant quand même.
Et donc Léa?
Et bien, dans Café Touba, les premières personnes qui m'accueillent au Sénégal, à Dakar, c'est un couple, Habib et Nefatou, et quand je les rencontre, Nefatou est enceinte. Bien enceinte, elle est enceinte de 8 mois déjà, ce qui l'empêche pas d'abattre un travail faramineux tous les jours. Et donc on devient proche, je vais à Gorée avec eux, on passe du temps ensemble à Dakar, le temps que je m'acclimate un peu au Sénégal, etc. Et on s'entend très bien. Et à un moment, en discutant avec Habib, je dis « Ah ben, dis donc, vous allez avoir un bébé, c'est trop chouette, et vous savez si c'est un garçon ou une fille, est-ce que vous avez des idées de prénom ?» Et Habib me dit « Ah ben, on ne sait pas, on s'est gardé la surprise, et si c'est un garçon, on va l'appeler Mohamed, et si c'est une fille, on va l'appeler comme toi, on va l'appeler Léa. » Donc moi, j'ai dit « Ah ouais, t'es sûr ?» Il me dit « Oui, ben, on a discuté, puis on trouve que c'est un prénom chouette, et du coup, si c'est une fille, on va l'appeler Léa. » Donc je lui dis « Mais c'est obligé, ça sera une fille, et du coup. » Et donc le temps passe, je continue mon voyage, etc. Et puis, quand je suis en Casamance, du coup, il m'appelle et il me dit « Mais le bébé est né ?» Et du coup, je dis « C'est un garçon, une fille !» Et donc, c'est une fille. Et donc, ils l'ont appelé Fatou Léa, donc Fatou en hommage à sa grande sœur. Et Léa, Léa, donc Léa avec un H, qui n'existe pas au Sénégal. Et voilà, mais maintenant...
Et donc, ça conclut le premier album de façon très, très émouvante. C'est vraiment un moment bouleversant, vraiment. La Léa qui est le personnage qui est vous dans la BD. Moi physiquement je la reconnais pas.
Non, c'est pas moi.
Voilà, c'est pas vous.
Il y a quelqu'un un jour qui a pris l'album, qui a regardé, et donc je racontais un peu. Je dis, vous voyez le personnage sur la couverture, c'est la version BD de moi, etc. C'est quand vous étiez jeune, hein? Les remarques adorables qu'on a en dédicace.
Ouais.
Donc non, mais il y avait un parti pris un peu. Là. Moi j'appelle ça le bonhomme moi, en fait. Ça me permet de le mettre à distance déjà, parce que je raconte des choses qui ne sont pas forcément glorieuses à mon sujet tout le temps. Et il y a aussi le fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure aussi, c'est que pour que ça marche, entre guillemets, j'avais besoin du prisme de mon regard. Et pour pouvoir expliquer des choses, c'était vraiment un peu, c'était Candide au Sénégal, quoi. Il fallait que j'ai l'air très naïve dans la découverte, etc. Donc il y a eu le parti pris de faire un personnage vraiment tout petit, qui a des proportions adultes, mais qui est vraiment petit. Bon, je ne suis pas très grande non plus, hein. Mais voilà, il y a eu ce parti pris d'en faire un personnage vraiment plus enfantin, dans les proportions, dans les remarques, etc. Et puis voilà, de virer aussi des éléments pour que ce soit un personnage très reconnaissable avec une touffe de cheveux noirs, une marinière. Donc voilà, mais je pense que j'ai eu besoin aussi d'en faire un petit peu.
Oui, la distance, ça m'a fait penser à ce. Dans la. Un livre qui s'appelle Carnet à mots, qui est aussi là aussi une série de textes d'observation. On va en reparler après. Et vous dites ça. Elle vivait dans un drôle d'univers où l'hiver était musical, où chaque flocon résonnait en touchant le sol, un univers un peu flou, un peu décalé, un peu mélangé. Il n'y avait qu'à voir comme elle changeait de personne et d'écriture tout le temps. Il y avait je et il y avait elle, et au fond c'était toujours la même, mais vue de près ou de loin, comme une vie qu'on filmerait tantôt en plan subjectif, tantôt de l'extérieur, comme un tas d'images avec leur noir, leur défaut et leur lumière, des images et des souvenirs. C'est ça que j'étais au fond, un jeu d'ombre et de lumière. Et il y a ce jeu entre le « je » et « elle ». Et je me suis dit, enfin voilà, en relisant tout ça, en refouillant tous ces travaux, je me suis dit, en fait, la garantie presque du témoignage et du documentaire et de une certaine sincérité dans la rencontre, c'est la distance que vous prenez avec vous-même. C'est-à-dire que vous devenez un personnage. Et il faut que ce soit un personnage et pas vous complètement à 100%.
Oui, bah j'étais obligée. Et puis je... Oui. Puis je pense que ça m'aide aussi à raconter des choses qui sont... c'est difficile de se raconter. C'est difficile de... Oui, de trouver des choses à raconter sans que ça fasse diapo de vacances, de j'ai été là. Et voilà, puis on a envie de montrer une image de soi qui est plutôt classe à la base, quand on se dit, genre, c'est des trucs très intéressantes. Et en fait, c'est souvent les failles qui nous intéressent, c'est ce qu'on ne dit pas. Et je peux prendre 5 minutes pour une anecdote là-dedans.
Ah, oui, bien sûr.
Et ben. Ouais, je vais vous spoiler le début de Café Tout Va. Ça s'ouvre sur une scène que moi j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place à la base, puisque la première nuit que j'ai passée au Sénégal, quand je suis partie et que j'ai passé ma première nuit au Sénégal, j'avais tellement peur que j'ai fait pipi au lit. J'avais 26 ans et j'ai mouillé mon lit de terreur, ça tout me faisait peur et je me suis endormie et je me suis pissée dessus. Donc c'était pas forcément le moment le plus glorieux de ma vie, honnêtement. Et en fait, au tout début, quand j'ai commencé à réfléchir Café Tout Bas, à écrire des choses, etc., avec mon éditeur, ça arrivait en page 40 sur une petite case dans un coin. Et du coup, mon éditeur a commencé à regarder, il m'a dit ça c'est super intéressant. J'ai dit déjà, vachement intéressant. Il m'a dit ça c'est ton début d'histoire, il faut que tu ouvres ton bouquin là-dessus. J'ai dit mais ça va bien, ça, les gens ils vont ouvrir un livre, salut, je me pisse dessus, bon, j'allais l'acheter. Et j'étais très embêtée. Et il m'a dit non, vraiment, essaye une mise en page où tu démarres par ça, fais-le un peu lire. J'ai deux, trois personnes à qui je fais un peu lire les bords, les trucs en chantier, tout ça. Fais-le un peu lire et tu verras ce que ça donne, mais vraiment, c'est une bonne scène d'ouverture et tout. Donc j'ai essayé vraiment à contre-cœur, j'étais très mécontente. Et j'ai fait lire à mon coloc, Romain, qui était un peu un de mes lecteurs test. Et donc je lui ai dit, voilà, j'ai essayé un nouveau truc, regarde, tu le dis. Du coup, il a regardé ça, puis il m'a dit, ah, mais c'est vachement bien comme ça. Donc j'étais très vexée, j'ai dit, comment ça, c'est bien, pourquoi c'est bien là-dedans, c'est intéressant. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidée après à assumer des trucs. Il a dit, mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit que tu n'allais jamais me mentir dans ce que tu racontes. Et ça m'a convaincue, du coup.
Oui,
c'est pour ça que ça s'ouvre sur une scène mémorable comme ça. Mais c'est vrai que ce côté-là, de se dire, bah, à partir du moment où on raconte des choses qui nous glorifient pas, a priori, c'est le parti pris de la sincérité qui...
Oui, c'est pas garanti non plus.
Non.
Mais ça donne...
Je dis quand même.
Je pense aux Confessions de Rousseau, où il dit... la vérité, et en même temps, il y a une manière de la dire qui fait que ça peut être suspect parfois. Le récit donc est alimenté de la mémoire, de souvenirs. Il y a une phrase qui est en exergue de Café Tout Bas, vous m'avez rappelé, effectivement, qui est superbe, c'est quand on va chercher, quand la mémoire va chercher du bois mort, elle ramène le fagot qui lui plaît. C'est super. Alors c'est d'un...
C'est
Birago Diop, qui est-ce ?
Qui est un auteur sénégalais.
D'accord. Donc vous êtes allé chercher... votre mémoire est allée chercher du bois mort et ramener le fagot qui lui plaît. Je trouve que c'est une superbe expression pour expliquer le travail au bout du compte de création.
Oui, parce que... déjà, les souvenirs, c'est forcément très subjectif. Et en plus, ce qu'on garde de ses propres souvenirs, c'est encore plus subjectif. Donc... voilà, c'est qu'au bout d'un moment on se dit mais tel personnage, est-ce qu'il a vraiment dit ça ou est-ce que j'ai imaginé qu'il a dit ça. Il fallait recomposer des conversations que je pensais avoir lues dans ce sens-là, mais il y a des gens qui ont relu, qui ont dit ah bon ça, mais moi je me souviens, c'était pas avec tel qui avait ça, je sais plus, enfin voilà. Puis c'est aussi,
c'est-à-dire faut que ça produise un récit que nous en tant que lecteurs on adopte et
c'est ça.
Donc il y a des aménagements, c'est inévitable.
C'est obligé. Dans Soumgal, ça a été... À un moment, dans Soumgal, ça coinçait. J'avais des vingtaines de pages qui coinçaient, ça m'énervait. Et c'était difficile de mettre le doigt dessus, mais là, ça coince. Ça marche pas, ça m'énerve. Et en fait, il y avait deux séries de rencontres. Une avec un personnage qui est resté dans l'histoire, qui s'appelle Christelle. Et une avec un autre personnage qui s'appelle Juliette. J'ai mis Christelle et Juliette. C'était toutes les deux des jeunes femmes expatriées qui ont toutes les deux une quarantaine d'années, qui vivent toutes les deux au Sénégal avec un enfant, qui me partagent plus des choses sur un peu leur histoire et leur choix de rester ici. Et je me suis dit, mais pour le lecteur, c'est le même personnage en fait. Ça n'a pas de sens qu'il y en ait deux. C'est les mêmes codes de personnages. Mais moi, ça m'énervait beaucoup parce qu'il y avait deux personnes et il y avait ce côté-là de dire, mais non, il y a deux personnes différentes, je les ai rencontrées, c'est pas les mêmes. Et en fait. Pour les besoins de l'histoire.
Voilà, pour les besoins de l'histoire, pour que le récit fonctionne.
J'ai mis un petit mot d'excuse à la fin en disant ça et ça. C'est pas... Mais voilà, il y a tous ces choix-là de supprimer des personnages parce qu'ils sont pas pertinents, mais quand c'est des copains, ça nous embête de nous dire bon, ils sont pas pertinents, on va les enlever.
Bien sûr. Mais
c'est leur vrai nom tout le temps.
Oui.
C'est pas des prénoms.
Pour la majorité, c'est les vrais. Alors des fois, il y a. Pareil, dans Sunoyal, il y a deux personnes qui ont le même prénom.
Donc,
et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas simple pour le lecteur, donc j'ai inventé un prénom à l'autre. Mais
Oui.
Voilà.
Alors, c'est un C'était un travail documentaire, une sorte de reportage, si on veut.
Un peu. C'est un récit reportage de voyage.
Qu'est-ce que parce que j'ai pensé donc, enfin, il y a d'autres auteurs comme ça qu'on connaît et qu'on aime et auxquels j'ai pensé en lisant ça. Enfin, j'ai pas découvert ça hier. Je pensais à Guy Delisle, par exemple.
Moi j'aime beaucoup Guy Delisle, donc je suis très flattée.
Guy Delisle, je l'ai découvert il y a 20 ans, et c'était à l'occasion d'un album qui s'appelait Shenzhen. Ouais. Et il y a 20 ans, c'est donc un récit de son. Il est allé travailler dans une grande région industrielle de Chine. Et il y a 20 ans, aujourd'hui la Chine a l'impression qu'on voit sans arrêt des documentaires, enfin beaucoup de choses dessus. En réalité, il y a 20 ans, il n'y avait pas grand-chose. Et la première fois que j'ai lu un documentaire crédible, intéressant, qui parlait de la Chine réelle, c'était le Shenzhen de Guy Delisle, qui ensuite fait d'autres choses sur notamment Jérusalem. Je pense à Marjane Satrapi sur Persepolis. On parlait de l'histoire tout à l'heure, elle a raconté l'histoire de l'Iran, et avec elle vous comprenez ce que sont les révolutions iraniennes et comment les révolutionnaires se sont fait avoir par l'Ayatollah Khomeini, qui a promis la démocratie et qui a instauré une république islamique immédiatement dès qu'il a pris le pouvoir. Davodo, alors pour, c'est plus, on reste en France avec Davodo, mais il a un livre qui s'appelle Les mauvaises gens, ça se passe dans le Maine-et-Loire, en plus une région que je connais, sont des sortes de reportages, de documentaires sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir autrement et qui sont peut-être mieux raconté comme ça que par un documentaire audiovisuel, ou ça, ce qu'on a l'habitude de voir. Qu'est-ce que la BD permet que un livre de texte ne permet pas? Qu'est-ce que ça autorise? Et quelle en est la limite? Mais qu'est-ce que ça autorise aussi, ça? Depuis quelques minutes, on est rentré un peu dans le vif du sujet.
Oui.
Déjà, hein. Remarque.
Du coup, il faut que je...
Voilà.
Je pense que
donc là, il faut réfléchir. Donc, qu'est-ce que ça autorise que le... qu'une autre forme ne permet pas.
Bon, tout ce que je vais répondre sera forcément subjectif, du coup.
Bien sûr.
J'ai peur que des gens se lèvent en disant « Non, c'est faux !»
Ne partez pas.
Remboursez, allons-y, gratuit.
Je pense que la BD permet du silence. Oui. Que c'est plus difficile d'avoir dans quelque chose qui est uniquement dans le texte, parce qu'en BD, on peut se permettre d'avoir des cases muettes. Et en roman, si on met une grande page vide, le lecteur va passer rapidement, ou si on met il y eut un grand silence et nous contemplâmes le paysage, ça se lit plus
oui,
vite.
Et
je pense que la BD
du coup on lit et il y a un travail intégré, alors que sur l'image
je pense que la BD permet de se noyer dans quelque chose sans mots, alors que c'est peut-être plus difficile à mettre en place avec du texte. Moi j'aime bien ça, j'aime bien la rythmique que permet les dessins, en fait c'est que voilà, je trouve que ça permet parfois de prendre une respiration qui repose, ça va pas être vraiment le mot, parce que c'est pas que le texte soit fatigant, mais
non, mais qui crée un rythme, voilà. Une alternance, ça crée un rythme, et donc ça aide à la lecture.
Il y a des rythmes différents, et
Par exemple, une pleine page, ou quand vous arrivez avec vos amis au bord de la plage, c'est une pleine page, et c'est alors c'est pas silencieux parce que le cerveau imagine immédiatement, fabrique les sons, les voix au loin, les vagues, etc. Mais c'est une page silencieuse et, voilà. Et ça pose effectivement le regard, le cadre, etc. Je pensais à ce passage de frontière où vous êtes entassé sur un bus. Enfin, sauf vous avez monté sur le toit parce que c'est trop bien de monter sur un toit, voilà. Du coup, autour de vous, ils vous accueillent parce que c'est génial. Une blanche qui s'autorise à aller rejoindre les autres sur le toit, voilà. Normalement, on est dans le confort, et là non. Et donc le passage de frontière, on n'a pas le droit d'être aussi nombreux sur un. Et donc, faut descendre du bus, et donc il y a une série de vignettes comme ça. On voit le bus traverser le village. Vous, vous êtes derrière, tous ceux qui étaient sur le toit sont descendus et marchent tranquillement. Passe devant les douaniers,
oui, voilà.
Ils disent rien puisque vous êtes à pied, voilà. Et puis dès que le bus est sorti du village, hop, vous remontez sur le bus pour continuer la.
C'est une comique de situation, du coup, les douaniers savaient bien en voyant passer un bus, puis deux minutes après, ils voient passer 15 clandestins à pied sans bagage, ils sont là, ils ne perdent rien, ils savent bien que.
Vous avez remonté.
Mais ils
ne
peuvent rien dire parce qu'on est à pied.
Vous êtes à pied. Et ça, c'est silencieux.
Oui, voilà, ça permet.
La succession
de...
et c'est très drôle, c'est voilà, c'est on pige tout et c'est voilà très 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 bien. Sur ben moi cette histoire d'alternance, de rythme et tout ça, comment vous avez construit? Est-ce que d'abord des deux albums, le premier a été plus difficile à réaliser parce que c'était le premier, le deuxième est venu plus facilement. Grâce à cette expérience ou
Ah, je fais une toute petite parenthèse sur la question d'avant. Parce que,
oui.
La BD permet de jouer avec l'oral et avec les bulles plus facilement que le texte. Aussi, parce qu'on peut avoir des trucs en gros, des trucs qui sont chuchotés, on peut jouer avec les formes du texte, on peut mettre du texte vraiment en fond. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en BD, de pouvoir jouer avec l'oralité. Et que je trouve peut-être moins...
Ah ben il y a des choses qu'on peut pas faire quand il y a une bulle de texte remplie mais qui est superposée avec d'autres bulles parce que ça veut dire quelqu'un où il y a un bruit de fond, il y a quelqu'un qui discute pour ne rien dire et que il y a un dialogue au premier plan, ça fonctionne grâce à la BD et pas autrement.
Les onomatopées tout ça, enfin voilà, moi c'est ces rythmiques là que je trouve joyeuse particulière.
Alors sur la mécanique de la bande dessinée, un truc intéressant parce que bon, quand on connaît un peu la BD, on connaît ce travail, mais pour les gens qui ne sauraient pas, là vous avez travaillé sur cet album qui s'appelle Somaliland. C'est pas vous qui l'avez dessiné.
Non, j'ai bordé.
C'est pas vous qui l'avez scénarisé, mais vous l'avez bordé. Oui. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne savent pas?
Alors bordé, c'est faire vraiment la mise en scène en fait. C'est choisir quelle case, quel cadrage, à quel moment on aura du texte. Voilà, c'est le scénario, ça va être il marche dans le couloir et frappe à la porte. Et le board, ça va être case 1, on voit le couloir avec une petite silhouette au fond. Case 2, gros plan sur les pieds. Case 3, le personnage de dos face à la porte. Voilà, c'est savoir comment est-ce qu'on. C'est ce qui correspond à la mise en scène au théâtre ou au cinéma, par exemple.
Et c'est écrit ou c'est dessiné?
Ça dépend des gens. Moi, en l'occurrence, je l'ai dessiné, parce que moi, j'aime bien dessiner. Moi, c'est la partie que je préfère dans la bande dessinée. En fait. C'est le moment où ça prend vraiment. Enfin, c'est le moment où on se cogne à la rythmique, c'est le découpage.
Et
ça, c'est vraiment chouette pour moi.
Il y a des auteurs qui font tout. Puis il y a des... Parce que là, c'est le problème de la narration, en fait. Vraiment, une bande dessinée, il faut que le récit circule d'une image à l'autre. Et c'est pas donné à tout le monde. Il y a des très bons dessinateurs qui ne savent pas faire circuler une histoire, un récit dans une planche, et donc il faut savoir le faire. Et donc là, vous apportez votre concours sur cet album, Somaliland, on retourne en Afrique. Oui. Là, c'est l'Afrique de l'Est.
Oui, complètement, de l'autre côté.
De l'autre côté. Et alors, Somalie, ça vous dit quelque chose, mais Somaliland, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un pays.
C'est un pays qui
n'est pas reconnu encore.
Voilà. Pas par la communauté internationale. C'est un pays...
Mais les gens, eux, savent bien qu'ils habitent au Somaliland, voilà. Et pas en Somalie. C'est un fragment de la Somalie. Et c'est là le récit d'une femme, d'une jeune femme, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, où elle retourne au Somaliland.
Ouais.
Et c'est une immense chanteuse, en fait, de grand charisme.
Voilà. Sarah Algan qui passe régulièrement en France, puisque du coup elle est maintenant à cheval entre la France et le Somaliland. Il y a même une deuxième édition qui a été tirée en partenariat avec leur maison de disques. Du coup, il y a l'album et un CD.
Alors, il y a d'autres choses, mais peut-être que ça viendra au fil de vos questions, parce que je vais vous laisser la parole maintenant. Peut-être juste, je ne sais pas si on a le temps. Non, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, c'est à vous de jouer. Est-ce qu'il y a d'abord une question que vous auriez aimé que je vous pose?
Ah, écoute, cette question.
Quelque chose à dire,
on me l'a déjà donné et on me l'a déjà. Oui, et je ne sais pas quoi répondre à ça.
Il faut que je réfléchisse.
Pendant ce temps, si vous avez des questions, ça peut venir après.
Oui,
est-ce que vous avez des questions?
de l'arrière de la salle, comme ça, on verrait qu'il y a des gens. Ouais. C'est une émission absolument technique.
Restez là encore quelques minutes.
C'est une question de communication. Et ben voilà. Il fallait partir, mais oui, il y avait des gens.
Non, pardon, c'était un tabou.
Ah oui, très bien.
Non, c'est drôle parce que ça me fait réfléchir à voir mon travail comme un.
Eh bien, ça met en perspective les choses, hein, c'est sûr. Là, voilà une autre collaboration avec donc une amie dessinatrice. Là, vous n'avez pas dessiné, mais c'est votre amie Anjal qui a fait les dessins. Ce joli album, Julie et les oiseaux.
C'est un album jeunesse. Ça. Du coup, c'était la première fois que je faisais quelque chose en jeunesse. C'était pas prévu non plus. Il m'est arrivé beaucoup de trucs assez imprévus, en fait, professionnellement.
Le thème, un peu rapidement.
Ah, c'est l'histoire d'une petite fille qui adore dire des gros mots. Elle s'appelle Julie.
Des noms d'oiseaux.
Voilà, des noms d'oiseaux. Et elle adore dire des gros mots qu'elle appelle des mots pourris. Et ils sortent de sa bouche comme des petits monstres, sur la mesure. Et puis, c'est toute la question un peu de la communication, etc. Donc, elle en dit parce que ça fait marrer les copains, etc. Et puis un jour, elle en dit vraiment un très très gros, donc elle est punie, donc elle est très fâchée. Et c'est un. En fait, il y a un conte dans le conte, il y a une histoire dans l'histoire, c'est qu'on lui raconte un conte africain, à la base, qui est un conte soufi, qui existe, qui s'appelle Les oiseaux noirs, les oiseaux blancs, que j'avais vu au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Comme quoi, c'est. Voilà. Et qui dit que les mots sont que. Voilà. C'est un conte qui a été simplifié pour cette histoire-là. Le vrai conte est un peu plus complexe. Il dit que les hommes sont des forteresses avec plein de petits nichoirs en quelque sorte, et qu'ils ont un certain nombre d'oiseaux qui sont des oiseaux noirs, des oiseaux blancs, qui sont des choses positives ou négatives, et qu'ils se les échangent en fait. Mais que si à un moment on envoie quelque chose et qu'il n'y a plus de place dans les nichoirs, ce qu'on va envoyer va nous revenir. Donc c'est cette espèce d'idée un peu de karma aussi, de ce qu'on envoie nous revient. Et voilà, là, l'histoire est un peu simplifiée là-dedans, mais voilà, la petite fille se retrouve avec cette idée d'oiseau, puis elle va passer par d'autres choses.
Et au niveau de la réalisation, le rapport avec la dessinatrice, comment ça s'est passé?
Super bien. Ouais, j'ai la chance à chaque fois que je travaille avec des gens, ça se passe super bien. Je travaille pas avec beaucoup de monde du coup, mais les quelques fois où ça s'est passé, c'était top. Et en fait, c'est elle qui m'a demandé. C'est du coup, Anjali, on partageait le même atelier.
Anjali, on prononce le
nom. On prononce Anjali, elle est d'origine indienne, et du coup, c'est son deuxième prénom indien, donc ça se prononce Anjali. Et voilà, un jour, on est devenus copines, on partageait le même atelier, puis un jour, elle m'a dit: moi, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais que tu m'écrives une histoire. Et je lui ai dit: ah bon, mais ouais, comme ça. Mais ça m'a posé beaucoup de questions. Je me suis dit: ah, si j'écris un truc et qu'elle le trouve nul, ou si j'écris un truc qu'elle aime bien mais que moi j'aime pas du tout ce qu'elle dessine, comment on va faire? Et en fait, j'ai repris ce projet là qui était un tout petit projet d'illustration que j'avais eu peut-être 10 ans avant et que j'avais rangé dans un tiroir. Et au tout début, on l'avait pensé vraiment comme un livre jeunesse, avec du texte à gauche, une image à droite, vraiment pas format bande dessinée. Et on l'a envoyé à plusieurs maisons d'édition, et on n'était pas loin en fait. C'est autant des fois on reçoit un peu toujours le même cliché malgré l'intérêt que présente votre projet. Mais là on a reçu vraiment des trucs à nos noms, avec des vrais retours, avec des compliments en disant: ah, on a beaucoup aimé, mais on a un livre sur la même thématique qui sort, mais continuez à nous envoyer ce que vous faites. Des gens se sont demandé des modifications et de renvoyer des choses. Enfin voilà, on a 3-4 maisons d'édition où on s'est dit: ah, peut-être,
mais quand ça bouge, c'est bon.
Voilà. Et du coup, moi, j'étais déjà publiée chez Jargy pour Café Touba, et on s'est dit qu'on allait le montrer à l'éditeur en lui demandant s'il avait en tête une autre maison d'édition. On savait qu'il faisait pas d'album jeunesse. Et en fait, quand il l'a regardé, il me dit: mais ça, si vous l'adaptez en BD, nous, on vous le publie chez Jargy. Et du coup, on s'est dit: ok, faisons de la BD. Et voilà, je fais une parenthèse pour dire quand j'allais, du coup, publie aussi aux éditions Bersalé, qui sont une maison d'édition de jeunesse très chouette aussi. Et voilà, on a publié deux là récemment qui sont super chouettes, avec Swan Merali, et qui sont toujours voilà, pour la jeunesse, un sur comment on fait les bébés et un sur la question du handicap chez les enfants. C'est super à chaque fois, c'est ludique, c'est joyeux, c'est hyper approprié, c'est drôle. Voilà, ça tient bien. Un libraire ici qui ne me contredira pas.
Tu connais. Bien, j'avais prévu, en fait là on a digressé un petit peu, parce que je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je voulais parler du don d'observation, qui est à peu près permanent dans tout, qui est une sorte de ligne directrice dans tout ce que, dans tous les albums, dans tous les travaux que vous avez faits. Et voilà, et le don d'observation, notamment, c'était tout à fait remarquable pendant le confinement. Alors, il y a plein d'écrivains, de grands auteurs qui ont écrit sur leur expérience du confinement. En général, c'est nombriliste et pénible. Et Léa, chaque jour sur Facebook, produisait des petits billets sur ses observations du confinement. Je voulais vous demander d'en lire un petit peu.
Oui.
On va lire les cinq premiers jours, par exemple. D'accord ?
Ça marche. Alors, sachant que ça, c'est vraiment un peu dans le genre de mon projet de diplôme, où je me disais, mais c'est pas pour de vrai, parce que c'est facile. C'était vraiment un petit. À la base, c'était vraiment des bêtises. Hein. C'est pas. Alors. Voilà. Moi, je les ai pas lus depuis le confinement. Je vais les relire. Alors. Les nouvelles, jour 1. Le rêve anxiogène. Pour protéger les ministres du coronavirus, on les transfère mentalement dans d'autres corps hôtes sains. Qui lit trop de SF ? Le gouvernement veut réquisitionner mon bébé pour y mettre Elisabeth Borne. Je suis très mécontente. Le grippin est cassé. Bon courage les copains, à demain. Les nouvelles, jour 2. Le type dehors coupe l'herbe des espaces verts de l'immeuble sur sa motocultrice tondeuse d'un air très content, clope au bec. Il fait de la fumée et du bruit. Envie d'ouvrir la fenêtre. Déjà qu'il y a le confinement, tu crois pas qu'on pourrait garder les pâquerettes et les petits coquelicots ? Merde ! Tentative de réparation du grippin. Conseil technique. Quand tu retournes le grippin, de manière surprenante, toute lignette accumulée dedans pendant des années de tartines se casse la gueule. Aussi, mieux vaut le faire sur un torchon ou sur un plan de travail. Ainsi, tu récupères les miettes pour les oiseaux ou voire pour les jeter à la gueule du motoculteur. Le dessous du grippin ne peut pas être dévissé parce que les petites vis sont triangulaires. Donc ça ne marche ni avec un cruciforme, ni avec un tournevis plat. Internet explique que c'est le complot des fabricants de grippins. On se dit qu'on va tailler un truc en forme de tournevis à trois pattes ou limer une vis déjà existante. On pose le grippin à l'envers pour s'en souvenir et on grille le pain au four. C'est le soir, on a du temps pour cuisiner. Et si ce bébé goûtait du riz mixé ? Dépliage du grand papier tout plié de frises de blabla que doit manger le nourrisson à cet âge. Riz mixé validé, enthousiasme. Cherchage sur Internet. Faut-il mixer le riz au thermomix ? L'écraser à la fourchette ? Le cuire jusqu'à bouillie de riz ? Internet s'énerve. Le riz met de l'arsenic dans ton bébé. Le riz pour bébé doit être bio. Ton bébé ne doit avoir que du lait maternel. Le riz est mauvais pour les cultures. Avoir un bébé est mauvais pour la planète. D'ailleurs, c'est la fin du monde, c'est bien fait. Pendant ce temps, le bébé a attrapé le dépliant géant et a bavé, mâchouillé, dissous la partie de la frise, les réflexes alimentaires de 2 à 3 ans. Bon courage les copains, à demain, à bientôt dans le dehors. Les nouvelles, jour 3. Le grippin est toujours à l'envers sur l'étagère, on va le réparer demain. Le motoculteur fou est revenu l'après-midi même. Ces gens-là n'ont aucune limite. Il est revenu avec une souffleuse à feuilles, l'air encore plus content, la clope au bec, toujours. Poussière et bruit, il a tourné autour de tous les arbres. Interrogation. Est-ce qu'il fait ça de son propre chef ? Il a son attestation de « je sors faire mes courses à la souffleuse ?» Peu probable, donc c'est du travail. Mais qui a pu mandater ce type ? Qui pense que souffler des feuilles, couper des pâquerettes est nécessaire ? Est-ce qu'il ne peut pas m'autoculter dans son salon en télétravail ? Je lui jette des regards assassins à travers la vitre, aucun impact. Le matin, la petite vieille de devant fait le tour des différents immeubles en essayant de regarder par toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. Elle s'est tellement approchée de chez nous que j'ai cru qu'elle allait taper au carreau. Motivation de rangage de tas. Prenons ce tas, ici, sur la table à manger. Un courrier de l'URSSAF, pile, triage de trucs chiants, note de carte bleue, poubelle à papier, tasse sale, évier. Oh, ça, alors, petit paquet d'autocollants de dinosaures perdu il y a 15 jours. Trop bien. Collage de dinosaures sur l'étagère, les deux chéquiers, le PC, l'agenda, comprenant divers tests, hésitations, décollage et recollage, comparatif et combat des dinosaures avec bruitage. Fin de journée, le tas a diminué de 0,2%. Il reste au moins 6 dinosaures à qui trouver une place. Quel bon rangement. Bon courage les copains, à demain, à bientôt dans le dehors. Les nouvelles, jour 4. Le grippin est toujours à l'envers sur l'étagère, on va le réparer ce week-end. Réveil embrumé, premier geste de confiné, allumage de radio. Rien. Pas de voyant lumineux, pas de son, rien. panique mentale. Plus de radio, plus d'électricité si ça se trouve, donc plus internet, ou plus de réseau, ou plus d'émetteurs. Radio coupée, coup d'état, le cri, guerre civile. Nouveau test tremblant, petit bip, allumage. Pour rappel, à droite bouton power, à gauche bouton volume. On l'a échappé. Pas de nouvelles du motoculteur souffleur fou, c'est toujours ça de prix. En début d'après-midi, une dame prend l'air sur le banc de l'espace vert de l'immeuble. Une autre passe et elle s'approche, s'approche, s'approche et elle s'assoit à côté d'elle, tout près, à moins d'un mètre de distance. Je grogne derrière ma vitre. Et là, là, qui voilà, soudain, la petite vieille qui fait des tours d'immeuble, qui arrive avec sa petite chaise de camping pliante. Et elle s'assoit aussi, à moins d'un mètre de distance. Et elle discute. Je m'étrangle derrière ma fenêtre. Je décide d'aller travailler loin de la vitre qui donne sur l'irresponsabilité du monde. Je retourne dans la cuisine 2 heures après pour me faire un thé. Internet, je ne te mens pas, au moment où je te parle, ils sont 8 dehors. Ils ont apporté leur chaise et il y en a assis par terre. Les deux dames, la petite vieille, le couple de jardineux de l'immeuble de devant, la dame du balcon du dessus, d'autres que je ne connais pas. Moyenne d'âge de 60-70 à la louche, de loin, limite il se passerait une bière. Il taille le bouquin à la fête des voisins dans le dehors. Voilà une jeune femme qui promène son chien, elle s'approche pour discuter, allons-y dément. Ne manque que le motoculteur fou. Ah, je crie toute seule dans ma cuisine. La population à risque, c'est vous, putain. Barrez-vous, barrez-vous, vous êtes trop cons. Aucun effet. Et pendant ce temps, mon thé refroidit. Bon courage les copains, à bientôt dans le dehors. Les nouvelles, jour 5. Le grippin, tu parles, le lave-vaisselle vient de planter. On regardera demain. À tous les coups, il aura aussi des vis triangulaires. C'est la débandade de l'électroménager. La nickel lay des joyeux inconscients tient un nouveau salon de jardin à une petite dizaine. Ils ont dû entendre mes mauvaises ondes, ils ont tous écarté leurs chaises pliantes d'au moins 1 mètre. Ils se parlent fort pour s'entendre, on dirait un cercle de vieux scies. De temps en temps, un promeneur à chien rejoint la causette. Sur le parking, une famille entasse des bagages dans le coffre de la bagnole. Ce coin n'a jamais été aussi peuplé, ou peut-être que j'ai jamais autant regardé par la fenêtre. Première sortie depuis 5 jours, les courses, hurra! Croisé, une joggeuse énergique, un type en tenue de jogging qui flâne, un petit pas rêveur. 4 ados qui se bousculent en trottinette, morts de rire. L'un a une demi-douzaine de baguettes de pain sous le bras. Une maman avec une toute petite fille enthousiaste cavalant sur un mini-vélo. Un type bourré qui titube de l'autre côté du trottoir. Une autre joggeuse énergique. Un gamin d'une douzaine d'années avec son père, en pleine interrogation. Mais on dit l'ONS ou l'OMS? Devant l'épicerie, un type a ouvert sa fenêtre. Il discute avec 2 autres types en bermuda claquette. Sur un balcon, quelqu'un a branché un micro ou un genre de haut-parleur. Ça siffle, ça crachote, accompagné régulièrement de « Hé, ça marche ?» Et là, ça marche ?» Et oh, et oh. Aux courses, pas de lait, pas d'eau. Et non, pas d'eux non plus, je vous dirai bien lundi, mais c'est quand même pas sûr. Et là, tout à l'heure, je leur ai dit, moi, qu'il fallait être prudent. Et bien là, tout à l'heure, madame, figurez-vous, une cliente qui arrive avec ses courses, elle paye. Et après, qu'est-ce qu'elle me dit? Je voyais bien, moi, qu'elle était pas bien. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je sais pas trop où j'en suis niveau maladie, lavez-vous bien les mains après moi. Non, mais vous imaginez, moi, j'ai tout désinfecté, le tapis, le rouleau, la machine, la caisse, j'ai mis du pchit partout. Non, mais les gens, vraiment, je vous jure, allez, bon courage, et lavez-vous bien les mains, hein. Je serai vous, je me laverai bien les mains. Suivant, la farine un par personne, monsieur. Non, mais faut penser aux autres, si on s'arrête lundi. Je vous dis, moi, il faut être prudent. Je sais pas si vous avez entendu ce que je disais à la dame, mais figurez-vous, une cliente qui arrive avec ses cours ce matin. Bon courage, les copains. À demain. À bientôt dans le soir. Merci.
Voilà. Et donc, c'était comme ça pendant tout le confinement, pendant tous ces jours-là.
Vous avez 60 jours de...
Voilà. Ce serait... Une idée de publication peut-être de...
Bah, ça a été publié en fait après enfin ça a été publié pour les copains de Facebook puisque après les 60 jours j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit est-ce que c'est possible d'avoir un petit recueil. Donc il y a eu un mini recueil un peu de copains mais c'est disponible sur ma page Facebook et puis maintenant j'envoie le PDF des textes s'il y a des gens. Voilà.
Merci à vous.
Ben, merci beaucoup.
Et puis, je crois qu'on a pour un petit pot final pour, si vous voulez, discuter. Voilà. Et Léa a bien sûr apporté plutôt des ouvrages. Donc, si vous voulez lui faire dédicacer ses albums,
voilà.
Elle est disponible. Merci.
Voilà. Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup.